Comment travailler sur la géopolitique et le journalisme en classe ? C'est le projet que nous avons proposé avec les lycées du Bois d'Amour et le lycée de Camille Guérin, aux deux groupes d'HGGSP en première OLP2I, avec mes deux collègues, Henri Gauthier.
Bonsoir.
Et Jordi Colomère.
Bonsoir.
Professeur d'histoire-géographie. Je suis Julie Morin, professeure documentaliste, et nous vous parlons du prix Géopolybule sur Delta FM. J'ai deux questions, une pour chacun. Alors, on commence par Henri Gauthier. Le 22 janvier dernier, les classes des trois lycées étaient réunies pour voter pour leur BD préférée. Comment s'est passée la rencontre ? Quel a été le temps fort pour toi ? Et quel BD a remporté les suffrages ?
Alors, ça s'est très bien passé. Très rapidement, en fait, il y avait plusieurs temps. Le premier temps, ils étaient réunis en une dizaine de groupes avec 10 élèves dans chacun, puis mélangés, hein, venant de différents établissements. Et ils devaient discuter, s'entendre pour faire un classement de leur BD. À la suite de ce temps-là, il y a eu un vote. Et ensuite, il y avait un temps de créativité où, par BD sélectionnée par les élèves, en fait, ceux-ci devaient faire une création visuelle ou une photo ou une vidéo pour faire la promotion de cette BD. Et puis, ça s'est terminé par un temps de rencontre avec donc Antoine Dreyfus, donc le co-scénariste de la BD, donc Pyongyang Parano. Alors moi, je dirais que le temps fort, ça a été cette rencontre. Hein. Clairement, de la part des élèves, ça a été manifesté à la fin. Puis même nous, on l'a senti. Antoine Dreyfus a été a transmis pas mal de choses, en fait, sur qui il était, puis sur comment il a vécu ce séjour à Pyongyang, qui est la base, quand même, de sa BD. Donc, vraiment, ça, c'était le temps fort. Et puis, merci de m'avoir rappelé que, effectivement, la BD préférée par les élèves, c'est le journal Inquiet d'Istanbul. Et d'ailleurs, c'était un bon moment, parce que je crois que, dans le même temps, nationalement, le tome 2 de la BD paraissait. Donc, ils sont vraiment à la page, nos élèves. C'est des élèves formidables, n'est-ce pas, Jordi ?
Absolument, Henri.
Jordi, donc on a parlé de la rencontre du 22. C'est dans le cadre du prix Géopolybule organisé par l'Académie de Brest, qui sélectionne 10 bandes dessinées. Comment nos classes de première ont préparé leurs émissions radio, celles que nous allons écouter ?
Donc, les élèves avaient, par petits groupes, des bandes dessinées à lire. Donc déjà, la première phase, c'était de lire attentivement les bandes dessinées, de les comprendre. Donc on les a un petit peu aidés à contextualiser aussi les bandes dessinées, parce que c'est pas forcément un document très simple à appréhender pour des élèves. Mmh. Ensuite, on leur a proposé de faire une fiche de lecture avec différents éléments à relever, travailler sur l'auteur aussi, donc sa légitimité à parler du sujet. Etc. Des choses aussi sur tout ce qui était graphisme, dans le côté plus esthétique, donc le fond et la forme de la bande dessinée. Et ensuite, en classe, donc avec toi, Julie, on leur a proposé d'écouter une émission de France Culture pour voir comment elle était organisée, quels étaient les critères radiophoniques pour qu'une émission soit sympa et qu'elle fonctionne. Donc on leur a fait repérer un certain nombre de choses sur le ton, sur le rythme, sur le rôle aussi que chacun a dans une émission. Donc certains se sont beaucoup inspirés du book club de France Culture, d'autres ont été aussi très créatifs. Donc ça, on a eu des belles choses. C'est un exercice qui était difficile pour bien des élèves, donc exigeant. Donc ça, c'était aussi bien de leur proposer quelque chose qui leur demande un vrai effort et un travail en groupe. Et ensuite, une fois qu'ils avaient structuré tout cela, eh bien, il a fallu qu'ils prennent rendez-vous ici à la radio avec Justine pour procéder à l'enregistrement. Et ensuite, on a partagé tous ces enregistrements avec les membres du groupe et avec les autres lycées, puisqu'on avait un endroit où partager tous les podcasts des trois lycées.
Parfait. Voilà. Et comme ça, chaque élève a pu prendre connaissance de chaque bande dessinée et ainsi se faire son propre avis. Voilà un peu tout ce que, enfin, la conclusion de ce projet que nous avons mené depuis septembre avec le lycée du Bois d'Amour et Camille Guérin, que nous saluons. Et nous vous laissons maintenant en compagnie de chefs d'État états-uniens passés et présents, de reporters de guerre, de journalistes sous une dictature, en Corée, à Istanbul, avec des personnages engagés dans l'humanitaire. Toutes les BD sont au CRD, j'en profite pour le dire. Et on vous souhaite une bonne découverte, plongée dans la géopolitique du passé et du présent. Merci beaucoup.
Merci Julie.
Merci à toi.
Bonjour à toutes et à toutes, merci de nous rejoindre sur Delta FM en ce milieu d'après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir un invité tout à fait spécial, Ersin Karabulut, un auteur qui s'est resté lucide et sensible face aux difficultés du monde qui l'entoure. Ersin a grandi à Istanbul, dans un pays riche d'histoire et de contradictions, et a choisi dès l'adolescence le dessin pour le raconter. Il est aujourd'hui reconnu pour ses bandes dessinées incisives, mêlant satire, sensibilité et engagement. Dans son autobiographie Le Journal d'Istanbul, il retrace sa vie de comment il est devenu écrivain à comment il est venu en France. C'est de cette bande dessinée-là dont nous allons parler aujourd'hui. Pendant cette émission, nous aurons tout le temps de revenir sur son enfance, ses écrits, ses dessins et son humour. Un voyage intime et sincère. Je suis heureuse de l'accueillir. Bienvenue Ersin Karabulut.
Bonjour Elena, merci beaucoup pour cette invitation.
Aujourd'hui, vous venez donc nous parler de votre bande dessinée, Le Journal d'Istanbul. Dans ce livre, vous êtes vous-même le personnage principal. Vous racontez une partie de votre histoire en Turquie. Avant d'être auteur, vous étiez donc illustrateur pour le magazine Penguin, avant de fonder votre magazine Yukuzuz, avec d'autres amis à vous, aussi dessinateurs. Ersin Karabulut, votre personnage principal, n'est pas un spécialiste de la vie politique, mais un citoyen averti des changements dans la vie des Turcs. Votre intention est de sensibiliser le monde sur les conditions de vie des Turcs sous la présidence d'Erdogan, de montrer les changements sociétaux intervenus depuis l'arrivée au pouvoir d'Erdogan et leur implication dans la vie des Turcs. Pouvez-vous nous faire un résumé de ce livre pour nos chers auditeurs ?
Bien sûr. Alors dans cette BD, on suit l'histoire de Ersin Karabulut, illustrateur de magazine. J'ai commencé à dessiner dans une rubrique pour le magazine Penguin et par la suite pour le magazine Yukuzuz que j'ai fondé avec d'autres amis illustrateurs. On va alors voir évoluer les politiques de mon pays, notamment avec l'arrivée d'Erdogan au pouvoir en Turquie, qui est considéré par ses opposants comme un autocrate, qui utilise la religion et le pouvoir à des fins personnelles pour se maintenir au pouvoir. Il contrôle et censure Internet, par exemple. Pour manifester contre ce nouveau gouvernement, mes amis et moi-même allons petit à petit commencer à participer aux manifestations pour montrer au peuple turc que Yukuzuz, à ce moment très populaire en Turquie et particulièrement auprès des jeunes, les soutient. Nous allons aussi commencer à dessiner des unes qui se moquent du pouvoir et qui vont donc nous mener à des procès, mais qui vont aussi entraîner des vagues de haine à notre rencontre de la part des partisans d'Erdogan.
Il serait peu dire que vous nous donnez très envie de lire ce livre. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cette BD est un documentaire, car on suit la vie d'une personne qui existe réellement ? C'est en quelque sorte une autobiographie, car on retrouve l'emploi du jeu, mais aussi le fait que le personnage principal soit vous-même, le narrateur et l'auteur qui mettait en image votre vie sous le régime d'Erdogan.
Tout à fait, j'aurais pas dit mieux.
Vos dessins sont propres à vous-même, vous avez un dessin assez particulier, un peu caricatural à certains moments. Comment nous le décrirez-vous ?
J'utilise des couleurs chaudes et froides, mais les couleurs chaudes étant très pâles, on reste sur un ton plutôt froid. Les bords des cases ne sont pas des traits droits, mais plutôt des traits comme dessinés à la main. Le lettrage donne lui aussi l'effet d'avoir été écrit à la main, mais proprement. Le trait manuscrit crée donc l'effet d'un vrai carnet personnel, comme si le lecteur avait accès à mes pensées brutes. Cela renforce l'idée que l'ouvrage est un témoignage direct, sans filtre, proche d'un journal intime.
C'est bien l'effet que j'ai eu en lisant votre livre. J'avais l'impression de lire un journal de bord. J'ai apprécié lire cette BD, car j'étais un peu au courant de la situation en Turquie depuis quelques années, sans m'être vraiment penchée sur le sujet. Grâce au journal Inquiet d'Istanbul, j'en ai appris beaucoup et j'ai aimé la façon dont c'est raconté et dessiné. J'ai découvert simplement et bien illustré la façon dont Erdogan est arrivé au pouvoir en Turquie. J'ai compris la façon dont il se maintient au pouvoir par le biais de ses manœuvres politiques, la manipulation de l'information et l'utilisation de la religion. Avec votre point de vue, j'ai compris ce que peut être la vie en Turquie pour les opposants d'Erdogan. Celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec sa politique et comment ils se font entendre, ou tentent de se faire entendre. Lorsque vous avez écrit ce livre, y a-t-il eu un moment que vous avez le plus aimé écrire qu'un autre, une page ou un passage par exemple ?
Eh bien oui, il y a une page que j'aime beaucoup et dont je suis très fière. On peut retrouver l'article illustré que j'ai écrit à la place de mon dessin hebdomadaire destiné aux électeurs d'Erdogan. En espérant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe dans ce pays, que ceux qui ne les soutiennent pas perçoivent comme changement dans la société, parfois pour des connaissances qui commencent à agir différemment de ce qu'ils pouvaient faire avant l'arrivée d'Erdogan au pouvoir. Avant de l'écrire, j'ai échangé avec quelques personnes qui soutiennent Erdogan pour essayer de comprendre leur point de vue.
Merci Esrine, c'est très précieux d'entendre votre démarche. Votre livre montre bien votre volonté de comprendre toutes les voix, même celles qui ne pensent pas comme vous. Merci beaucoup Ersin Karabulut d'être venue nous parler de votre livre. Nous avons pu le travailler en détail et comprendre le sens politique.
Eh bien, merci à vous Elena pour cette invitation. C'était un plaisir pour moi.
Eh bien, chers auditeurs, c'est la fin de cette interview pour les plus grands lecteurs. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle interview la semaine prochaine. Bonne journée à tous.
Bonjour à tous et bienvenue sur Delta FM dans Géopolitibule. Bienvenue à Faustine et Salomé, nos deux chroniqueuses du jour. Aujourd'hui, on s'attaque aux gorilles du général et croyez-moi, ce ne sont pas des gorilles. Enfin, pas littéralement. Faustine, Salomé, prête à décortiquer tout ça ?
Toujours là pour parler des types qui courent derrière De Gaulle avec des costards trop serrés, t'inquiète.
Et moi pour ajouter une petite dose de drama historique comme d'habitude.
Bon, on commence simple. Qui a pondu cette BD et est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Salomé, tu prends la main.
Avec plaisir. Alors côté scénario, on a Xavier Dorisson, décrit comme l'un des plus brillants scénaristes de sa génération. Le gars a déjà bossé sur le Troisième Testament, Ulysse et Cyrano, le Château des Animaux, bref, il débute pas. On adore mélanger histoire et fiction à la manière d'Alexandre Dumas, et là, il est parti d'un documentaire sur les gardes du corps de De Gaulle. Son objectif, c'était de passer de la grande histoire au dilemme personnel. Et il avoue clairement qu'une bonne partie est inventée. Bon, crédibilité plus créativité, combo gagnant.
Très bien. Et côté dessin, Faustine ?
Là, on a Julien Tellot, monsieur très puissant et virtuose. Il a déjà bossé sur Elric, et il est chargé ici de recréer les années 60 avec des décors ultra réalistes. Son rôle, c'est de nous mettre dans l'ambiance. Rue, costume, tension politique, tout ça. Et franchement, il coche toutes les cases de dessinateur pro, qui sait de quoi il parle.
Bon, Salomé, maintenant tu vas nous dire de quoi ça parle concrètement. Mais attention, pas de spoil gratuit, hein.
Promis. On est en 1959, la France tremble avec la guerre d'Algérie, les attentats du FLN et un pays qui tient debout avec un chewing-gum et une épingle à nourrice. De Gaulle vient tout juste de revenir au pouvoir et là il se dit « Tiens, si j'avais une équipe de mecs hyper solides pour éviter de mourir !» Résultat, il recrute 4 gardes du corps surnommés les « gorilles du général ». La BD montre leur quotidien, leur recrutement, leurs liens, leurs peurs, leurs doutes, mais aussi leurs menaces qui rôdent autour du pouvoir. On a de l'action, du suspense et surtout, la vie d'homme de l'ombre.
Faustine, et côté personnage ?
Alors, on suit principalement les gardes du corps inspirés des vrais Henri Djouder, Paul Comiti, Roger Tessier, René Auvray, Raymond Cessia. La BD change peut-être des noms, mais on est dans cette team-là. De Gaulle est bien là, évidemment, mais vu depuis les coulisses, et puis, on croise des ministres, des flics, des menaces terroristes. L'ambiance 1959, quoi.
Petite immersion dans une scène vraiment marquante. Faustine, tu nous racontes ?
Carrément, le général doit assister à un événement. Tout va bien jusqu'à ce qu'un ami des gorilles, un homme un peu sombre dans les bas-fonds des renseignements, les appelle. Ils arrivent et trouvent un journaliste qui avait déjà causé des soucis au général. L'homme révèle qu'un attentat était prévu contre De Gaulle. Du coup, panique, il faut retourner protéger le général au plus vite. Et là, twist. Deux gardes sont censés tuer ce journaliste, et l'un des anciens, l'autre est le petit nouveau. Le nouveau panique complètement, il ne peut pas le faire, et il se barre. Ambiance tendue, morale en vrac, dilemme, tout ce que Dorisson adore.
Salomé, la BD c'est vrai, c'est faux, c'est les deux ?
C'est clairement une fiction. La BD l'assume, il y a un dossier de la réalité à la fiction. L'éditeur dit que beaucoup est inventé, mais pas faux. Les noms changent parfois, c'est du sérieux mais romancé. Idéal pour comprendre une époque tout en lisant un thriller.
Faustine, raconte-nous l'ambiance visuelle de cette BD.
On est sur un grand format du dessin hyper réaliste, des lumières sombres façon thriller, une ambiance années 50-60 très soignée. On sent la tension, le danger partout, les ombres, les contrastes. Le lecteur se retrouve dans la voiture des gardes, dans les couloirs du pouvoir. C'est immersif de ouf et malgré le sérieux du sujet, ça reste fluide à lire et dynamique, limite cinématographique.
Pour finir, Salomé, pourquoi nos profs adorent-ils cette BD et pourquoi ont-ils voulu que nous la lisions ?
Parce qu'elle coche plein de thèmes du programme, déjà la puissance, la France et De Gaulle qui veut retrouver son rang, gouverner la France depuis 1956, la 5ème République et les tensions politiques, les gardes du corps sont au cœur du pouvoir sans en faire partie, et la guerre d'Algérie qui est omniprésente dans la BD.
En gros, c'est parfait pour réviser sans avoir l'impression de bosser, enfin presque.
Merci les filles et merci à nos auditeurs et auditrices. On a survécu à la guerre d'Algérie, au complot, aux dilemmes moraux et aux costards mal repassés. Merci à vous d'avoir écouté cette chronique sur les gorilles du général. C'était Géopolitibule dans Delta FM. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'histoire, avec peut-être un peu moins de tentatives d'assassinat. Enfin, on espère.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Delta FM dans notre émission Géopolibule qui décrypte l'actualité à travers la bande dessinée. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Charline. Salut Charline.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler de la BD Maison Blanche écrite par Jérôme Cartillier et Karim Lebourg et dessinée par Aude Massot. Elle vient de paraître chez Delcourt. On va essayer de comprendre comment fonctionne cette BD et ce qu'elle nous dit du pouvoir américain. Charline, déjà, qui sont ces auteurs ?
Alors, Maison Blanche est co-scénarisée par Jérôme Cartillier et Karim Lebourg. Cartillier est journaliste à l'AFP. Il a été correspondant à la Maison Blanche, donc il connaît directement les lieux, les acteurs et les routines présidentielles. Lebourg est aussi journaliste, ancien correspondant pour RFI et l'AFP à Washington, à l'ONU, au Moyen-Orient et en Afrique. Tous deux ont donc une légitimité journalistique forte et une expérience de terrain idéale pour raconter les coulisses du pouvoir. Le dessin et les couleurs sont réalisés par Aude Massot, une autrice française habituée à de la BD reportage, par exemple avec Une saison à l'ONU. Elle maîtrise le style documentaire et donne à l'album son rythme très clair.
Et cette BD, elle parle de quoi exactement ?
Elle raconte le fonctionnement intérieur de la Maison Blanche vu par deux correspondants français, des avatars des deux auteurs. On suit la vie journalistique à travers trois présidences, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden. Le cœur du livre, ce n'est pas la politique au sens des grandes décisions, mais les coulisses du pouvoir, la communication, les rapports humains et l'évolution du travail des journalistes.
Tu peux nous résumer la BD sans dévoiler la fin ?
Oui, bien sûr. Au début, on découvre Jérôme Cartillier et Karim Lebourg qui arrivent comme correspondants à Washington. Ils expliquent comment fonctionne le press pool, comment on accède aux conférences, quels sont les codes, les contraintes. On commence sous la présidence d'Obama avec un climat relativement contrôlé et prévisible. Puis, petit à petit, on suit les transitions politiques jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, qui bouleverse les rapports avec les médias.
Est-ce qu'on sait ce que les auteurs veulent montrer ?
Oui, clairement, ils proposent une vision documentaire pour comprendre comment la Maison Blanche fonctionne au quotidien, montrer comment chaque président se transforme l'atmosphère du lieu, et enfin analyser la relation tendue entre pouvoir et information, surtout à l'ère des réseaux sociaux.
C'est plutôt de la fiction ou du documentaire ?
C'est du documentaire. Les auteurs racontent leur propre expérience réelle. Les protagonistes, Obama, Trump et Biden, sont historiques. Les scènes décrivent des événements authentiques, comme les conférences de presse, l'usage intensif de Twitter, la pandémie, etc. La BD est construite comme un reportage en images.
Et graphiquement ?
Massot utilise un style semi-réaliste, très lisible. La mise en page est claire, presque comme un carnet de terrain. Les couleurs sont nuancées et changent selon le président, ce qui donne une ambiance différente à chaque séquence. On ressent tour à tour la tension, la fatigue, l'énergie ou le chaos du moment politique.
Si tu devais résumer la BD en 5 mots ?
Alors mes 5 mots, ce seraient coulisses, pouvoir, journalisme, tension et réalité.
Y a-t-il un lien avec le programme d'AGGSP ?
Oui, on est en plein dans le thème « s'informer ». On voit comment se fabrique l'information, l'accès aux sources, la communication du pouvoir et la place du journalisme dans l'écosystème médiatique moderne.
Merci beaucoup Charline pour toutes ces explications et merci à vous qui nous écoutez. C'était Géopolibule sur Delta FM. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité à travers la BD. À la prochaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de radio sur Delta FM. Aujourd'hui, nous accueillons un invité, Jason, qui va pouvoir répondre à nos questions sur la BD Tsar Bomba de Fabien Grolot et Cyril Elof. Et donc Fabien Grolot, qui est l'auteur, et Cyril Elof, le dessinateur. Mais donc Jason, pouvez-vous nous éclairer ? Quel est le thème de cette BD ? Le sujet ? Enfin bref, de quoi parle cette BD ?
Je le peux en effet. Donc Tsar Bomba, dans les grandes lignes, c'est une BD qui va porter sur des faits historiques et passionnants qui se sont déroulés pendant la guerre froide, mais également avant et après. C'est une BD qui va parler de science, de cauchemars, de faits réels et tout au long de l'histoire. Nous allons suivre le même homme qui va nous faire vivre à travers lui la BD, l'histoire et l'élaboration de la Tsar Bomba russe. Donc Tsar Bomba, c'est également l'histoire d'Andrei Chakarov, qui, en pleine guerre froide où l'Union soviétique cherche à tout prix à se doter de l'arme nucléaire, va être repéré par le Kremlin qui l'emmènera dans une base scientifique secrète dont le but est que lui et ses collègues physiciens réussissent à fabriquer l'arme nucléaire dont l'Union soviétique rêve tant. Tout au long de cette période, André va commencer à cauchemarder en pensant au désastre que sa création pourrait apporter au monde.
Merci. Mais quelle est la légitimité des auteurs et leur intention ?
Alors, Fabien Grolot est l'auteur de Tsar Bomba, mais il a également écrit d'autres BD comme par exemple « Sur les ailes du monde » où il gagnera d'ailleurs le prix de la BD géographique. Ce ne sera pas son seul prix, puisqu'en 2019, il reçoit le prix du livre scientifique jeunesse grâce à son livre HMS Beagle aux origines de Darwin. Ensuite, les intentions de l'auteur sont de détailler les doutes et les cauchemars du physicien russe, concepteur de la plus grosse bombe H, surnommée Tsar Bomba, en prise aux conséquences humaines de ses travaux jusqu'en entrée en dissidence.
Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Et pour terminer, 5 mots pour décrire cette BD.
Bah alors pour moi, les 5 mots seraient donc destruction, pouvoir, secret, course et apocalypse.
Eh bien, merci Jason d'avoir répondu à nos questions.
Plaisir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Delta FM dans notre émission de critique littéraire sur la géopolitique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une BD bien particulière puisqu'elle participe à l'édition 2025-2026 du prix Géopolibulle, le crétin qui a gagné la guerre froide. Nous accueillons donc deux critiques littéraires spécialisées en histoire et en géopolitique. Bonjour Jules et Joachim.
Bonjour Lilou.
Bonjour.
Donc, cette BD, Le crétin qui a gagné la guerre froide, a été écrite par l'historien Jean-Yves Le Naour et est parue en 2025 au Bambou Édition dans la collection Grand Angle. Jules, pouvez-vous nous résumer un peu l'histoire de cette BD ?
Eh bien, cette BD, elle raconte l'histoire de deux mandats de l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan, de 1981 à 1989, et de toutes les inepties également qu'il a fait subir à ses conseillers et entourage politique, jusqu'à avoir réussi à contrarier Gorbatchev, le dirigeant de l'URSS à cette époque. Car oui, à défaut d'être capable de maîtriser ses dossiers et de garder son sérieux face à ses devoirs de président, il se révèle être génie de la communication et de l'humour. C'est d'ailleurs ses atouts qui lui ont permis d'être élu président des États-Unis.
Vous, Joachim, comment décririez-vous l'ambiance de cette BD ?
L'ambiance générale de la BD est tendue. On se demande toujours les conséquences des décisions de Reagan. On peut aussi remarquer des moments où le ridicule prend totalement le dessus. Un très bon exemple de ces moments est la page 56 de la bande dessinée. Dans celle-ci, Reagan prend visite à l'ambassadeur de Russie pour participer à des négociations à propos de la fin de la guerre froide. Le problème est que Reagan est très immature, il mange, il se moque des Russes et empêche les négociations, ce qui rend la scène lunaire et ridicule. Le style graphique nous permet aussi d'être encore plus plongé dans l'ambiance de la bande dessinée.
Donc vous venez de mentionner le style graphique. Jules, pouvez-vous nous en dire plus ? Est-il différent par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres bandes dessinées ?
Bien sûr, les dessins, ils sont très très réalistes. On pourrait vraiment se croire sur place. Ce qui rend la BD spéciale, c'est les petits points noirs présents sur toutes les cases de la BD. Ces points rendent le dessin très original. Cela nous permet donc de ne pas être lassés par ce style. Nous pouvons aussi voir, à certains moments, une façon de dessiner les personnages quand il y a une dispute de façon comique. Ce style de dessin s'appelle le chibi, un style japonais qui consiste à dessiner des corps très petits et la tête particulièrement grande.
Merci Jules. Donc vous Joachim, est-ce que vous conseillerez cette BD à nos auditeurs ?
Bien sûr, nous conseillons fortement cette BD pour son contenu et pour son originalité. Surtout pour les lycéens en première qui ont pris spécialité AGGSP. Cette bande dessinée illustre très bien un des thèmes de l'année en montrant les tensions entre les deux plus grandes puissances de l'époque.
Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci à tous les deux pour cette interview très intéressante à propos de la BD Le crétin qui a gagné la guerre froide. Quant à vous, chers auditeurs, si cette BD vous a plu, n'oubliez pas de voter pour elle à l'édition 2025-2026 du prix Géopolibulle. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. C'était Lilou en direct de Delta FM.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Delta FM, c'est le moment de votre émission Géopolitibule. Aujourd'hui on se retrouve avec nos spécialistes Maëlys et Isis pour la présentation de la BD 3ème caméra. Écrite par Cédric Apicant et dessinée par Denis Rodier, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces deux personnages s'il vous plaît ?
Oui bien sûr, Cédric Apicant a fait sa première parution dans le monde de la bande dessinée en 2013. Il est scénariste, réalisateur et producteur français et écrivain. Du côté de Denis Rodier, il est dessinateur de bandes dessinées franco-canadiennes. Il a collaboré très tôt dans les séries les plus populaires d'éditeurs américains comme Marvel ou DC Comics.
En faisant ce livre, l'auteur voulait raconter une histoire peu connue et difficile de la Seconde Guerre mondiale, en montrant l'importance des images dans la guerre. Pour Cédric Apiquian, ce livre permet une réflexion sur le pouvoir de l'image. Et pour Denis Rodier, grâce à la production de ce livre, il voulait mettre en avant une histoire avec un visuel fort, mais voulait aussi être capable de transmettre l'histoire, l'atmosphère de l'époque avec contradiction. Il voit ainsi cette œuvre comme un moyen de faire revivre une période historique par l'art tout en y ajoutant une forme de témoignage.
Isis, pouvez-vous nous faire un petit résumé de l'intrigue principale du livre ?
Au début de la BD, on suit un groupe d'opérateurs d'images militaires dont la mission est de filmer les opérations sur le front. On découvre notamment un jeune caméraman qui arrive en zone de guerre encore peu habitué aux conditions extrêmes. Il doit apprendre à filmer au cœur du danger tout en comprenant que chaque image peut devenir un document historique, une preuve ou un outil de propagande.
Merci beaucoup Isis. Maëlys, est-ce que la BD cherche à nous interroger sur un sujet en particulier ou bien a-t-elle plutôt un but de nous amener à se faire notre propre réflexion ?
La BD cherche à montrer la guerre vue à travers ceux qui la filment, comme par exemple des témoins qui vont la filmer et montrer l'horreur sans pouvoir intervenir. Les auteurs interrogent sur différents sujets comme comment filme-t-on la guerre, pourquoi ces images sont-elles essentielles ou encore quel rôle joue la caméra dans la mémoire des conflits.
D'accord, merci beaucoup Maëlys. Si vous deviez décrire cette BD en 5 mots, lesquels choisiriez-vous ?
Pour moi, ça serait guerre, image, témoignage, mémoire et caméra.
Et personnellement, pour moi, je choisirais image, front, mémoire, danger et témoin.
Merci beaucoup à toutes les deux pour ces explications très intéressantes. Nous espérons que cela vous aura donné envie de lire cette BD. C'était Géopolitibule sur Delta FM. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Belle journée à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Delta FM, dans votre émission Géopolibulle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de Catherine Monod-Béranger et Paolo Vincenzo Castaldi, deux personnes qui ont su nous faire découvrir la fameuse BD L'Appel au bout du monde, récit qui nous fait réfléchir sur la vie humanitaire. Pour cela, je suis accompagnée d'une invitée spéciale, Charlène. Bonjour à toi.
Bonjour.
Donc, avec toi ici présente, nous allons parler de cette bande dessinée documentaire qui nous plonge justement au cœur de l'action humanitaire. Nous allons voir ce que la bande dessinée nous raconte, de comment nous fait-elle vivre, que ce soit en images ou sur les réalités du terrain de notre monde. Cette BD a été scénarisée par Catherine Monod-Béranger, une anthropologue, chef d'un projet à l'égalité femmes et hommes au conseil départemental de la Haute-Garonne. Concernant les dessins et les couleurs, on y retrouve Paolo Castaldi, un dessinateur et illustrateur italien reconnu. Son style en aquarelle donne une identité visuelle forte et très expressive. Donc, Charlène, veux-tu bien nous dire de quoi parle cette BD ?
Oui, bien entendu, la BD raconte le parcours d'une femme appelée Joëlle, une infirmière qui découvre en 1970 l'existence de Médecins sans frontières dans un magazine, pendant qu'elle attend son coiffeur. L'histoire la suit ensuite dans ses missions humanitaires dans plusieurs pays en guerre ou en crise, tels que le Liban, le Congo, l'Afghanistan. On découvre à travers elle ce que signifie répondre aux urgences, soigner sous les bombes, faire face aux épidémies et surtout s'engager dans un métier où l'on quitte tout pour sauver les vies.
S'agit-il d'une simple fiction ou un documentaire ou quelque chose du genre ?
Il s'agit très clairement d'un documentaire, bien que ce ne soit pas des personnages réels. On peut y reconnaître un contexte réel, le génocide au Rwanda, l'épidémie d'Ebola, les guerres du Liban. Il y a également des lieux véridiques, Beyrouth, le Congo, l'Afghanistan ou bien Djibouti. Par ailleurs, Joëlle est un prénom d'emprunt. Son parcours est inspiré de témoignages humanitaires réels.
Parlons maintenant de la forme. Qu'est-ce qui fait la spécificité graphique de cette BD ?
Les dessins sont réalisés à l'aquarelle avec des couleurs douces, jamais agressives, même dans les scènes de guerre. Le lettrage est assez classique, ce qui facilite la lecture. Le contraste entre la douceur des couleurs face à la dureté des situations permet de créer l'ambiance. Le lecteur ressent de la tension, de la peur, mais également des moments de réflexion. De plus, Paolo Vincenzo met en avant la chevelure de Joëlle. On peut remarquer que la couleur rousse de Joëlle s'éclaircit au fil des années et des missions, comme si chaque crise traversée effaçait un peu de sa lumière. La page 223 nous le montre très bien, avec des photos souvenirs de ses missions, République démocratique du Congo, l'Afghanistan, Djibouti, Beyrouth.
Alors, j'ai bien vu que vous avez choisi la page 34. Concernant cette page choisie, pourquoi celle-ci paraît-elle importante? Pour répondre à cette question, nous allons répondre avec ce que Milly nous a envoyé, sachant qu'elle n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Elle nous dit ceci. Nous avons choisi de parler de la page 34 puisqu'elle est essentielle et réaliste. Nous nous trouvons tout d'abord au début de l'histoire avec Joël, qui est la plus âgée. Elle arrive au Congo pour une nouvelle évaluation. Alors que celle-ci reçoit d'anciens collègues, un jeune humanitaire lui demande « C'est donc pas la première fois que vous venez ?» C'est à partir de ce moment qu'elle se met à raconter ses débuts dans l'humanitaire. Il vient sa première mission au Liban, à Beyrouth, qui l'aurait marqué à vie puisque c'est ici qu'elle réalise la réalité de la vie humanitaire. La citation « J'ai découvert ce que c'était d'avoir peur pour de vrai » le montre clairement. De plus, on nous dit que celle-ci n'a pas réussi à s'endormir le soir, ou du moins qu'elle a très peu dormi, parce que sa nuit était vraiment très tourmentée.
Je pense que si l'on devait décrire la BD en 5 mots, ce serait engagement, humanité, crise, témoignage et courage.
Merci beaucoup Charlène d'avoir été présente aujourd'hui, de nous avoir surtout éclairé sur L'Appel au bout du monde, une BD qui est formidable selon moi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à une autre BD géopolitique. À très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Delta FM dans votre émission Géopolitibule, l'émission qui décrypte l'histoire à travers la bande dessinée. Aujourd'hui, je suis avec Clément Martinez.
Bonjour.
Le sujet du jour, les évasions perdues. Une BD qui plonge dans l'univers des camps des prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour commencer, pouvez-vous présenter la BD ?
Oui, la BD s'intitule Les évasions perdues. Elle a été écrite par Thomas Legrand, qui est scénariste, mais aussi journaliste politique connu. Le dessin est de François Ouazala, un dessinateur expérimenté qui travaille depuis longtemps dans la BD et l'illustration.
Et de quoi parle cette bande dessinée et quel est son sujet principal ?
La BD raconte la jeunesse d'un homme pendant la Seconde Guerre mondiale, et surtout sa déportation dans le camp de concentration de Tablack. Le cœur du récit sont les tentatives d'évasion, les stratégies pour survivre et résister, et la manière dont les prisonniers vivaient sous la surveillance nazie.
Et comment l'auteur met en place l'histoire, son sujet ?
Thomas Legrand s'appuie sur une histoire familiale. Son propre père a été détenu dans ce camp. Il utilise donc les témoignages directs, une mémoire personnelle. François Ouazala, lui, est un dessinateur habitué aux récits historiques, capable de présenter précisément les lieux, les ambiances, mais aussi des uniformes. Ensemble, ils mêlent mémoire, histoire et narration.
Et sans tout spoiler, pouvez-vous nous résumer le début ?
Au début, on découvre un grand-père qui raconte à son fils sa jeunesse pendant la guerre. Très jeune, il est fait prisonnier puis déporté dans le camp de Tablack. Là-bas, il subit les privations, les humiliations et la surveillance permanente. Mais très vite, une idée l'obsède, s'évader. Avec d'autres jeunes prisonniers, il élabore plusieurs plans, plus ou moins réalistes, pour tenter de quitter le camp.
Super. Quelles sont les intentions des auteurs et comment présentent-ils ce sujet ?
Leur intention est de faire découvrir une histoire personnelle tout en parlant de la réalité des camps de prisonniers. Ils montrent surtout la résistance intérieure, le courage quotidien, les dilemmes et l'importance de la mémoire. Leur vision des personnages principaux est celle d'un jeune homme ordinaire confronté à des choix extrêmes.
C'est un récit documentaire ou plutôt une fiction ?
C'est un mélange des deux. La base est documentaire. Tablack a existé, les faits sont historiques, sont authentiques et Thomas Legrand utilise des témoignages réels. Mais certains noms, dialogues et scènes sont romancés pour rendre l'histoire plus fluide et plus immersive.
Et graphiquement, qu'est-ce qui caractérise la cette BD ?
Le trait est assez sobre, précis, presque froid. Les couleurs sont dominées par des tons froids, ce qui crée une ambiance étouffante et grise comme le camp. Les cases sont souvent serrées, ce qui renforce la sensation d'enfermement. Ça donne une atmosphère lourde, sérieuse, fidèle au sujet.
Tu peux nous parler d'une page clé ?
Personnellement, j'ai choisi la couverture. Elle montre immédiatement l'univers des camps, la solitude du prisonnier. Elle place le lecteur dans le décor et annonce le thème : la captivité, l'évasion et la survie.
Et pour finir, la BD en 5 mots.
Mémoire, guerre, enfermement, résistance et bien sûr, humanité.
Super. Et quel lien peut-on faire avec le sujet de programme d'AGSP ?
On est pleinement dans le thème, la puissance pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans la question des conflits, des régimes totalitaires et d'expériences de guerre. La BD permet de comprendre la domination nazie, l'organisation des camps et la résistance des prisonniers.
Merci beaucoup à toi et pour ces explications. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir suivi cette émission. C'était Géopolitibule sur Radio Delta FM. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle BD et un nouveau voyage dans l'histoire. À bientôt.
Istanbul, une ville marquée par les tensions et l'autocratie puissante depuis la fin de l'Empire ottoman. Nous sommes en 2007 quand tout commence, avec l'arrivée au pouvoir d'Erdogan. Cette période est marquée par des révoltes de la population contre le gouvernement mettant en péril la capacité de la Turquie de rester un État.
C'est ce que raconte Ersin Karabulut, auteur de la BD Le Journal Inquiet d'Istanbul. Ancien étudiant de l'Université des Beaux-Arts des Mimar Sinan, il a travaillé pour un hebdomadaire turc et c'est l'univers dont il va s'inspirer et vivre tout au long de la BD. Dans cette biographie documentarisée, son intention est d'abord de montrer son histoire et celle de son pays afin de faire prendre conscience de toutes les atrocités d'une autocratie méconnue. Merci Lorelai pour cette mise en contexte. Aujourd'hui, dans la Minute Lecture, découvrez cette bouleversante histoire accompagnée de Lorelai qui nous a introduit cette superbe BD, ainsi que Roman, lecteur lycéen qui vont nous présenter la BD, le journal Inquiet d'Istanbul, qui est une histoire touchante sur le bouleversement de 2007 à 2008 auquel a dû faire face la population turque. Vous êtes ici pour l'association Géopolybule qui a pour but de promouvoir la lecture auprès des élèves et de les sensibiliser aux enjeux du monde contemporain dans un cadre scolaire. Bonjour à tous et bienvenue à Delta FM. Tout d'abord, pouvez-vous commencer par nous faire un petit résumé du début de la BD ?
Oui, alors c'est l'histoire d'Ersin qui mène une vie tranquille dans le quartier de Beyoğlu, où il vit en colocation avec d'autres artistes. Ensemble, ils publient leur premier article en magazine. Ce magazine devient en seulement quelques semaines l'hebdomadaire le plus vendu en Turquie, mais qui reçoit des avis très partagés, car en effet, il critique le gouvernement turc. C'est dans ce contexte qu'Erdogan, haut placé politique, annonce la destruction du parc Gezil. Indigné, le personnage principal rejoint les manifestations qui s'y opposent.
Merci Roman. Lorelai, quel est le sujet principal de la BD et comment l'auteur met-il en forme sa BD ?
Alors ici, le sujet principal, c'est la vie d'Ersin, l'auteur de la BD, durant la crise politique d'Istanbul. Il raconte sous forme de documentaire, car Ersin se base sur une histoire vraie, la sienne et celle de son pays, en racontant son point de vue. On peut donc dire que cette BD est un peu comme un récit autobiographique et documentaire, car elle raconte l'histoire de la Turquie et d'Istanbul, sans ajouter de faux éléments et où des vraies scènes sont vécues par l'auteur et la population turque.
Merci à vous. Pouvez-vous maintenant nous décrire la BD en 5 mots ?
Je pense que les mots qui correspondent le plus sont bouleversant, enrichissant,
réaliste, la censure de médias
et la dictature aussi.
Y a-t-il une planche qui vous a marqué et si oui, laquelle ?
Oui, pour moi, c'est la page 143. C'est un moment clé dans l'histoire car elle montre le moment où le pays tente de se révolter mais échoue face à la puissance d'Erdogan.
C'est un moment très important dû au fait que l'importance de ce qu'il se passe en Turquie. Et ça permet d'expliquer et de comprendre les événements qui vont s'en suivre. Dans cette page, une journaliste annonce la prise du pouvoir par l'armée pour rétablir l'ordre face au droit que la Turquie ne puisse plus en capacité d'être un État.
Voulez-vous dire quelque chose pour conclure ?
Je dirais qu'il faut vraiment prendre le temps de lire cette BD, car elle en vaut la peine et permet de comprendre l'histoire d'un pays qui reste assez inconnu, notamment pour les jeunes.
Merci beaucoup Roman et Lorelai d'être venus partager votre lecture et votre savoir sur cette BD. C'était Charlotte dans la Minute Lecture. Bonne fin de journée sur Delta FM et à bientôt pour une nouvelle émission.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Pyongyang Parano, une BD d'Antoine Dreyfus, journaliste qui raconte son voyage en Corée du Nord. L'originalité de cette œuvre, c'est qu'elle mélange témoignages réels et fiction pour mieux transmettre la paranoïa ambiante du pays.
Dreyfus n'est pas seul. Il voyage avec une autre journaliste, collègue et partenaire de reportage. Elle apporte un regard plus critique, plus ironique parfois, et elle permet d'exprimer les doutes, les peurs et les discussions qu'un journaliste ne peut pas toujours écrire noir sur blanc. Leur duo renforce le réalisme et montre deux façons de réagir à un environnement totalement surveillé.
La BD raconte leur séjour à Pyongyang. Déplacements contrôlés, photos interdites, rencontres limitées. Tout est mis en scène par les guides officiels. Au fil des pages, on sent monter une véritable oppression, comme si le lecteur lui-même était observé. Les couleurs froides, les cases serrées et le dessin très précis renforcent cette atmosphère étouffante.
Même si certains passages sont fictionnels, l'ensemble reste très documentaire. On comprend comment fonctionne un régime fermé, où l'information, les gestes et même les émotions sont contrôlés.
Une page clé montre le moment où Antoine réalise que le moindre de ses gestes est surveillé. C'est le tournant du récit. Le voyage n'est plus simplement étrange, il devient anxiogène.
Ce que l'on a aimé, c'est la force du témoignage, l'ambiance visuelle et le duo des deux journalistes. Ce que nous avons moins aimé, c'est la frontière floue entre vrai et fiction, qui peut parfois perdre le lecteur.
Enfin, cette BD a un lien direct avec la GGSP. Les thèmes sur les puissances et influences, l'information, la propagande, les états autoritaires et les enjeux politiques contemporains.
Pyongyang Parano est donc un récit à la fois captivant, informatif et profondément humain.
C'est une plongée rare dans l'un des pays les plus secrets du monde, ce qui le rend aussi attirant et comique.
Bonjour à tous et bienvenue sur Delta FM pour notre émission spéciale sur une des bandes dessinées nommée pour le prix Géoptibule 2025. Je suis Nina et je suis accompagnée de Adriana et Nikita, deux spécialistes de la guerre des deux Corées, qui sont venus dans notre émission pour nous parler de la bande dessinée sur le front de Corée, écrite par Henri de Turenne et Stéphane Marchetti. Aujourd'hui, nous allons explorer cette œuvre documentaire qui nous plonge dans la guerre de Corée, un événement essentiel pour comprendre la guerre froide et les enjeux de cette période.
Henri de Turenne, l'auteur de cette BD, est un grand reporter. Il reçoit le prix Albert Londres en 1951 pour sa couverture de la guerre de Corée. Il tire toute son expertise de son expérience sur le terrain.
À ses côtés, Stéphane Marchetti, journaliste et scénariste qui s'est transformé des enquêtes en récits graphiques, et Raphaël Ortiz, dessinateur reconnu pour son style réaliste, capable de bien reproduire toute l'intensité des combats. Ensemble, ils adaptent un récit de guerre en BD pour le rendre accessible au grand public.
Merci les filles pour cette belle présentation de nos auteurs. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que cette bande dessinée raconte ?
Elle raconte le premier grand reportage de Turenne en Corée entre 1950 et 1951. On y découvre la vie quotidienne des soldats américains et coréens, la brutalité du conflit, mais aussi le rôle du journaliste pendant cette guerre particulière. La quasi-totalité de la bande dessinée ne contient que des éléments historiques. Les seuls moments avec des détails fictifs ne servent qu'à rendre la lecture plus fluide.
C'est aussi un récit documentaire très détaillé, fidèle aux notes que Henri de Turenne a prises pendant son reportage sur le terrain. Au début du conflit, il assiste à la lourde défaite des troupes américaines et sud-coréennes, repoussées par les Nord-Coréens, soutenues par l'URSS jusqu'à l'extrême sud du pays. Forcés, les Américains préparent alors une contre-offensive. Celle-ci prend la forme d'un débarquement des soldats américains dans la baie d'Incheon, près de Séoul, une opération qui renverse le cours de la guerre.
Merci. Et j'ai aussi trouvé des dessins très particuliers. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
En effet, le style de dessin est très adapté au thème de la bande dessinée, qui est quand même très sombre. Les cases sont larges pour donner une impression de champ de bataille. Le dessin est nerveux, réaliste, avec beaucoup de détails dans les visages et les décors.
Les couleurs sont aussi une des particularités de cette BD. Ce sont plutôt les tons sombres, gris, kaki, brun, qui dominent, ce qui renforce l'ambiance de guerre. Cela permet donc au lecteur de ressentir la tension, la fatigue, la peur, mais aussi le courage du reporter.
Merci à vous Nikita et Adriana pour ces beaux éclairages sur cette bande dessinée, et merci pour votre belle expertise. Sur le front de Corée est donc une BD documentaire qui nous montre l'importance de témoigner des conflits et qui nous rappelle aussi le rôle essentiel des journalistes. Le regard d'Henri de Turenne et le dessin de Raphaël Ortiz nous permettent de mieux comprendre cette guerre qui a marqué un tournant dans la guerre froide. Bonne journée et à bientôt sur Delta FM.